Les fourberies de Scapin, de Molière, extrait numéro 1. Acte 1, scène 2. Scapin, Octave, Sylvestre.
Qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé.
Oh, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes.
Comment?
N'as-tu rien appris de ce qui me regarde?
Non.
Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier.
Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste?
Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude.
Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens.
Ah, oh, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie.
À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva.
Comment ? Quelle affaire, Scapin ?
Une aventure où je me brouillais avec la justice.
La justice ?
Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble.
Toi et la justice ?
Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Baste ! Ne laissez pas de me conter votre aventure.
Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés.
Je sais cela.
Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction.
Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge.
Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux.
Je sais cela encore.
Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille que je trouvais belle à la vérité. Mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituels du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour.
Je ne vois pas encore où ceci veut aller.
Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés.
Où est-ce que cela nous mène ?
La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir.